podcasts de Radio Vatican.
Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. C'est avec cette phrase que saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, résume la centralité de la résurrection dans la foi chrétienne. Tout repose sur le témoignage des apôtres et des saintes femmes rapporté par les évangiles, celui de Marie-Madeleine, des disciples d'Emmaüs, de ceux réunis au Cénacle et surtout celui de Pierre et Jean. Accourus sur les lieux le dimanche matin, ils virent le tombeau ouvert, vide, les linges posés à plat. Jean vit et il crut, est-il écrit sobrement. La résurrection, corps et âme du Christ, constitue ce mystère de foi sur lequel la science n'a aucune prise et sur lequel elle n'a cessé pourtant de s'interroger. Que dit justement la science de cet événement prodigieux? Comment expliquer la disparition du corps de Jésus? Peut-on aujourd'hui affirmer avec certitude que le tombeau situé dans la basilique du Saint-Sépulcre est bien celui du Christ? Autant de questions que nous avons posées à Jean-Christian Petit-Fils, historien, auteur de « Jésus » publié aux éditions Fayard, une enquête fouillée est très documenté sur le Jésus de l'histoire. Il revient tout d'abord sur le récit évangélique fondamental du tombeau vide, seul point de départ de l'historien.
Cet épisode du tombeau vide commence par la découverte par les saintes femmes qui s'en vont de bon matin à la tombe et s'aperçoivent que la pierre a été enlevée et, jetant un œil dans le sépulcre, voient que le corps de Jésus a disparu. Elle se précipite voir Simon-Pierre et le disciple bien-aimé, Jean, qui semble les deux à être restés à Jérusalem alors que les autres apôtres sont partis. Et là, évidemment, très incrédule, Simon-Pierre et Jean, le disciple bien-aimé, montent au tombeau et s'aperçoivent en effet que les femmes avaient raison. De façon stupéfiante, il n'y a aucune impression de désordre, il n'y a pas, le corps n'est pas là, en effet, mais les linges sont là, et les linges ne donnent pas l'impression d'avoir été arrachés. Il y a simplement le linceul, et puis les liens qui entouraient le linceul sont affaissés, comme si le corps avait disparu de l'intérieur. Et nous avons cette phrase courte, mais absolument impressionnante et capitale, « Il vit et il crut ». Donc il a vu quelque chose, et ce quelque chose l'a absolument convaincu de croire, et de croire en quoi? En la résurrection. Et le tombeau vide signifie bien quelque chose, c'est le fait que Jésus est ressuscité corps et âme. C'est pour ça que cet épisode du tombeau vide est vraiment essentiel.
C'est donc un tombeau vide que les pèlerins du monde entier, et ce depuis 2000 ans, vont voir à Jérusalem, celui qui est donc dans l'église, dans la basilique du Saint-Sépulcre. Qu'est-ce que concrètement la science peut dire sur ce tombeau? Est-ce qu'on peut affirmer avec certitude que cet édicule renferme bien le tombeau du Christ?
Oui, alors on a énormément d'indices qui nous permettent de le penser. Il y a quasi-certitude, notamment par le fait qu'en l'an 135 de notre ère, l'empereur Hadrien, ayant réprimé la seconde révolte juive, a décidé de raser Jérusalem une seconde fois, puisqu'il y a eu déjà une première destruction de Jérusalem en l'an 70 avec le temple qui avait disparu. Là, en 135, à la suite de la révolte de Bar Kokhba, eh bien, on va recouvrir toute cette zone, lieu du culte chrétien, expulser les juifs, et on va combler le lieu de gravats, c'est-à-dire le Golgotha et le tombeau. On va construire une plateforme sur laquelle un forum sera édifié avec un temple de Vénus. Et c'est donc après, au début du IVe siècle, par l'évêque Saint Macaire, va retrouver, avant même la venue de Sainte Hélène, la mère de Constantin, il va retrouver les lieux, donc on va creuser et on va retrouver les lieux. Donc Hadrien, qui avait voulu faire disparaître totalement les lieux de culte du christianisme, en réalité les a indiqués parce que la mémoire en était restée et que si on avait creusé, rien trouvé, évidemment c'était pas le lieu, mais on savait que le tombeau de Jésus et le Golgotha se trouvaient sous ce temple et sous ce forum. Donc c'est un lieu, il y a une immense certitude, très grande certitude d'authenticité.
Alors, tombeau vide, le corps de Jésus n'est pas là. Est-ce que la science aujourd'hui peut expliquer la disparition du corps de Jésus?
Alors, la science, elle est évidemment muette, parce que c'est un événement non reproductible. Nous avons certains témoins, hein, le témoignage notamment du linceul de Turin, alors qui a donné lieu à de grandes discussions, mais qui aujourd'hui semble de plus en plus un document authentique, enfin un linge absolument authentique. Nous avons le fait que ce linceul nous présente le corps d'un homme couronné d'épines, flagellé, avec présentant toutes les marques de la passion, dont le corps a disparu au bout de quelques heures, puisqu'il n'y a aucune marque, aucune trace de décomposition. décomposition. C'est le corps d'un homme, c'est pas une peinture, on en est absolument sûr. Aucune trace de décomposition et surtout aucune trace d'arrachement, notamment des blessures au poignet, montrant donc de façon mystérieuse le corps s'est évanoui de l'intérieur. Ça pose un énorme problème à la science. Puis il y a aussi un autre document, probablement qui est lui aussi authentique, qui est ce qu'on appelle le sueur d'Oviedo, qui est ce linge qu'on a mis autour du visage de Jésus. C'est pas une mentonnière. Et les taches de sang de ce sueur, conservées dans la cathédrale d'Oviedo, se recoupent parfaitement avec les taches de sang qu'on peut voir sur le visage de l'homme du linceul, bien qu'ils aient eu des itinéraires tout à fait différents. Et des origines, des datations très différentes. Donc là, il y a quelque chose d'assez fort, y compris d'ailleurs aussi au niveau du sang qu'on a trouvé, puisque c'est le même groupe sanguin qui a été repéré sur le sueur d'Oviedo et le linceul de Turin. Donc c'est la science, là, est interrogée, et la science n'a pas de réponse pour nous expliquer ce qui s'est passé ce 16 du mois de Nisan.
Vous êtes historien et chrétien. En tant que tel, comment vous positionnez-vous face à la résurrection ?
Alors, en tant que historien, j'ai d'abord écrit un premier livre sur Jésus, qui se voulait donc une étude sur le Jésus de l'histoire, qui ne s'oppose pas, bien sûr, dans les conclusions auxquelles je suis arrivé, au Christ de la foi, mais qui, dans mon enquête, nécessairement est incomplet. Je m'arrête, évidemment, devant les miracles, je m'arrête devant la résurrection, a fortiori, mais on peut arriver tout de même à énoncer le mystère d'un homme prodigieux qui enseigne de façon tout à fait nouvelle à des Juifs une religion, mais qui dépasse, semble, l'accomplir et en même temps la dépasser, puisqu'il dit « Moïse vous a dit de faire ceci, moi je vous dis de faire cela ». Qui, moi ? C'est le petit artisan de Nazareth ? Non, c'est quelqu'un qui se présente, qui appelle Dieu son père « Abba », c'est-à-dire « Papa chéri ». Jamais les Juifs n'appellent Dieu « Abba », c'est les noms imprononçables. Là, il y a une familiarité étrange. Et puis surtout, ce Jésus, c'est celui qui pardonne les péchés. Or, dans la religion juive, le pardon des péchés ne peut venir que de Dieu. Donc, il s'identifie à Dieu, ce qui explique, évidemment, l'arrestation, le procès et la condamnation demandée à Pilate, puisque les Juifs n'avaient pas la possibilité de condamner quelqu'un en l'an 33. Il fallait donc une autorisation, il fallait passer par les autorités d'occupation.
Des propos recueillis par Manuela Affigie.